Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Anne-Sophie Pic, bonjour.
Bonjour Michel.
Vous êtes née parmi les étoiles, notamment les étoiles du guide Michelin. Vous êtes la seule femme française à avoir 3 étoiles. En France, vous n'êtes que 5 au monde. J'imagine que vos, quand on vous dit icônes, les premières qui vous viennent à l'esprit sont peut-être des femmes comme vous qui ont ouvert la voie.
Oui, bien sûr. Il y a eu la mère Brasier, évidemment, que mon grand-père André Pic apprécie énormément. Il apprécie beaucoup sa cuisine. Il y avait une grande complicité entre lui et elle. Donc bien sûr, c'est une des femmes. Mais au-delà de la mère Brasier, il y avait déjà mon arrière-grand-mère qui était une cuisinière hors pair. À l'époque, il n'y avait pas d'étoile, mais c'est celle qui a initié la dynastie, avec qui a transmis son esprit de cuisine à mon grand-père André Pic, donc qui était Sophie Pic, dont j'ai la moitié du prénom. Et pour moi, c'est mon icône à moi, bien sûr.
Ouais, elle c'était une auberge qui avait été ouverte pour le gibier, pour les choses comme ça.
Oui, parfaitement. C'est exactement ça. C'était mon arrière-grand-père, donc Jacques Pic. Mon père a le même prénom de son grand-père, donc possédait 12 fermes en Ardèche. Il y avait une ferme, la ferme principale où il vivait, qui était l'auberge du Pin, au-dessus de Saint-Péret. Et là, donc mon grand-père était un petit peu le sage du pays. Ils avaient construit tous les deux. Ils avaient décidé avec mon arrière-grand-mère de construire une école pour que les fils des paysans puissent avoir accès à l'instruction. Et dans cette ferme auberge, un petit peu, il y avait du maraîchage, il y avait plein de choses. Et donc ma grand-mère s'est mise au fourneau, parce que mon arrière-grand-père était un grand chasseur. Donc elle a commencé comme ça. Ça a été vraiment un peu du bouche à oreille au départ. Sa cuisine a fait le tour de la région. Et ensuite, elle a transmis cette passion à mon grand-père André.
Oui, et ensuite, donc, il y a eu votre père Jacques. Vous avez succédé à votre père alors que vous n'étiez pas préparé à ça.
Non, alors, pas préparée, disons que j'étais peut-être pas programmée, peut-être par le fait que j'ai fait des études, j'étais la petite dernière, donc mon frère était plus celui qui était programmé, donc oui, c'était peut-être pas une grande évidence, mais en même temps, j'ai vécu au-dessus d'une cuisine toute mon enfance, donc j'ai eu l'éducation sans pour autant être programmée pour.
Oui, vous étiez dirigée vers la mode.
Oui, alors je rêvais de ça. J'aurais rêvé d'être dessinatrice de mode. Enfin, je c'est quelque chose qui occupait beaucoup mon esprit. J'avais pas le coup de crayon peut-être qui m'aurait permis d'accéder à cet univers-là, mais j'étais déjà dans ma tête quelqu'un qui avait besoin de création, de rêverie. C'était ce qui m'animait en fait. Donc, j'ai fait des études de commerce au tout début parce que pour reculer le plus possible le moment du choix. Et voilà. Et après, je suis revenue dans la maison.
Il y a eu un déclic dans votre vie, j'imagine qu'il y en a eu plusieurs, notamment quand vous avez fait un stage chez Mouette et Chandon.
Oui, tout à fait. Donc, mon père a été bien sûr le premier déclencheur de cette réflexion culinaire, mais le deuxième, ça a été James Guipin. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que je suis revenue travailler auprès de mon père grâce à lui. Et il le sait d'ailleurs, je lui dis assez souvent. Et c'est vrai que ça a été mon maître d'apprentissage chez Mouette et Chandon. J'ai vécu quelques mois à Épernay, merveilleuse expérience. Et il a eu cette bienveillance. Alors, je l'ai vu en tant que manager. C'est un premier manager pour moi, la vision d'un premier manager en dehors de mon père. Donc, ça m'a beaucoup aussi porté dans ma réflexion plus tard, cette bienveillance, cet altruisme qui portait à ses équipes. Et puis, cette vision qu'il avait du futur, et cette bienveillance qu'il avait avec ses équipes et avec moi-même, beaucoup de dialogues se sont créés durant ce temps à Épernay. Et à un moment donné, il a déclenché en moi cette envie de revenir travailler auprès de mon père.
Que vous a-t-il dit?
Je crois qu'il m'a dit que je cherchais quelque chose que j'avais déjà, en fait. Donc
c'est
ça,
beau,
c'est toujours intéressant. et oui, parce que finalement, on veut quelquefois chercher au-delà de la frontière, enfin franchir des frontières finalement, ce que j'ai fait d'ailleurs pendant mes études, ce qui m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs de pouvoir partir de chez moi. Mais quelque part, on a auprès de soi des choses qu'on ne voit pas forcément. Alors quelquefois, ça peut être tout simple comme le bonheur, mais ça peut être aussi l'inspiration de sa vie, et la passion qu'on va pouvoir avoir pour un métier. Et c'est vrai que en y ayant vécu toute mon enfance et mon adolescence, je pense que ce métier, j'avais l'impression de le connaître, et finalement que je ne pouvais rien apprendre d'autre sur cette vie-là. Et bien au contraire, le futur m'a prouvé que j'avais tort.
Aujourd'hui, votre groupe, je ne sais pas si j'ai les chiffres à jour, car il évolue en permanence. Il y a quoi ? Il y a 11 adresses ?
Oui, il y a un petit peu moins. Disons que il y a Valence, bien sûr, principalement, qui est le vaisseau amiral. Il y a Paris avec une étoile Michelin. Il y a Lausanne, il y a Londres, et puis il y a Singapour aussi.
Qui est le dernier.
Et puis il y aura bientôt Megève. Voilà. Et la dernière Dame de Pique va ouvrir en décembre. Et ce sera à Megève.
En dehors de la cuisine, j'ai vu qu'on vous posait une question du dîner idéal. Qui aimeriez-vous avoir à votre table? Il y avait Simone Veil, Isabelle Huppert. Ce sont des icônes pour vous.
Oui, le milieu artistique inspire le milieu artistique, en fait. Je crois que il y a aussi en moi cette vision. Vous savez, à l'époque, mon père recevait beaucoup d'artistes et mon grand-père aussi, Charlie Chaplin. Mon père recevait et il y avait cet attachement, cette complicité. Donc oui, le cinéma, c'est un moment d'émotion, la cuisine aussi, c'est des choses qui nous relient. Moi, j'aime à dire aussi que je suis très admirative des parfumeurs parce que c'est aussi un milieu qui me nourrit beaucoup. Donc tout cet univers-là se répond, se fait progresser. Enfin, on a besoin des autres aussi pour grandir soi-même. Et je crois que l'inspiration vient souvent des autres aussi, de leur univers et de ce qu'ils nous apportent en émotion.
Vous rencontrez des artistes aussi. Vous avez cité les Charlie Chaplin. Vous auriez pu citer Rita Hayworth ou Lagacan, qui venait aussi chez votre grand-père. Chez vous, c'est pareil.
Oui, bien sûr. Il y a des gens merveilleux qui viennent régulièrement. Dernièrement, Jean-Paul Belmondo, d'ailleurs, est venu. Enfin, il y a toujours eu, vous savez, l'axe de la Nationale 7, l'ancienne Nationale 7, donc de Valence, a créé aussi cette part de magie avec et cet été nous avons retrouvé un peu cette magie que j'ai moins connue plus enfant de ces haltes de Paris à la Côte d'Azur et maintenant bien sûr de l'Europe qui converge vers ce centre névralgique qui est la vallée du Rhône. Donc oui, ça existe toujours et tant mieux, mais ça crée un point d'ancrage très fort pour moi et comme vous le savez, même si j'ai bonheur à ouvrir d'autres restaurants, le point d'ancrage reste Valence.
Votre travail prend beaucoup de place, votre vie de famille est très importante et très, très épanouie aussi pour ce que j'en lis, ce que j'en sais, ce que vous dites. Est-ce que vous avez le temps de lire? Est-ce que vous avez le temps d'écouter de la musique?
Oui, alors la lecture, je suis un peu frustrée parce que je prends moins le temps de lire que ce que j'ai pu lire auparavant. Il y a des livres que j'ai envie de relire aujourd'hui, c'est vrai, que j'ai lu peut-être dans mon adolescence et qu'on lit, vous savez, par obligation et on n'a pas toujours la maturité pour les comprendre. Je pensais au Grand Mold, hein, c'est un livre hyper connu d'Alain Fournier, mais j'aurais voulu le relire. J'ai lu Nagori de Ryoko Sekiguchi dernièrement, qui est une jeune femme aussi qui fait partie de mon univers, bien sûr, une amie, et sur la saisonnalité. Alors bien sûr, j'essaie de lire des choses aussi qui sont liées à mon univers. Je lis des livres de parfumeurs, je lis des choses qui peuvent m'inspirer, qui me font rêver, et j'ai besoin bien sûr de ça, et ça contribue aussi à me faire rêver, en fait, c'est ça. On a besoin de cette part là de concentration aussi qui permet de construire d'autres choses aussi après.
Et quel est le lien entre le parfum et la cuisine?
Pour moi, le lien, il est direct, en fait. J'ai toujours pensé que l'olfactif, c'était vraiment l'antichambre du goût. Et souvent, quand je fais mes sauces ou quand je travaille un produit, un ingrédient par rapport à un autre, je le sens avant de le goûter. Et déjà, ces notes-là sont très parlantes pour moi. J'ai vraiment appris à beaucoup, beaucoup travailler ce sens-là, autant que le gustatif, je devrais dire. Et j'ai toujours été fascinée par les parfumeurs.
Est-ce qu'il y a des icônes parmi les produits, parmi les poissons, parmi les viandes, parmi autre chose, des choses qui sont au-dessus des autres pour vous?
Ah, c'est une bonne question. C'est une question très difficile.
Le thé a beaucoup d'importance aussi.
Oui, le thé, j'en ai un à côté de moi d'ailleurs, au moment où je vous parle. C'est mon moteur. En fait, j'ai voulu construire un univers qui soit très riche et très vaste. Et je pense que c'est probablement lié à mon côté autodidacte où finalement je suis curieuse de tout, tout ce que je ne connais pas ou que je ne connais pas encore. Et en fait, c'est ça qui m'anime. Et je crois que c'est une force. Ça a été une faiblesse à mes débuts, mais c'est une grande force pour moi aujourd'hui, de toujours chercher, découvrir. Donc pour ça, ça m'oblige, ou ça, c'est dans le bon sens du terme, à créer un réseau très large, à nouer des amitiés, à entretenir voilà des relations qui me nourrissent aussi. Et j'espère aussi que moi, je nourris les autres d'une certaine façon.
Quelle est l'icône dans votre cuisine ?
Oui, je vous ai pas répondu en fait. L'icône, c'est ça, je vous ai pas répondu, j'ai fait une pirouette parce que je saurais pas dire aujourd'hui. Le thé est un indispensable, le café me fait rêver et il est toujours dans une note. Là, je travaille sur ma nouvelle carte de Megève, donc il y a du café forcément dans cette nouvelle carte, et ces trames sont mystérieuses. Les épices deviennent de plus en plus présentes. Aujourd'hui, le safran, alors c'est peut-être le point commun avec mon père, le safran est quelque chose de merveilleux. Mais les légumes sont magnifiques, la betterave, les asperges. C'est une liste à la Prévert que je vais vous faire.
Ouais, mais allez-y, allez-y. Vous aimez les complexités aromatiques.
Oui, j'aime ça, mais pas pour le plaisir de complexifier. Faut que c'est vraiment du sens pour moi. Et du coup, le travail que je fais en cuisine est une cuisine aussi mijotée, travaillée, cuisinée, tout en respectant l'assemblage des goûts. C'est-à-dire, pour moi, ils doivent pas se noyer les uns par rapport aux autres. Ils doivent exister. Donc, comme c'est comme des stratifications, finalement, qu'on construit dans une assiette, comme on peut le construire dans une boisson, comme on peut l'avoir dans un vin, et comme on l'a dans un parfum, hein, les notes de tête, de fond, de cœur, c'est exactement la même chose en cuisine. Et construire une assiette de cette façon-là, c'est aller beaucoup plus loin, c'est permettre aux amertumes d'exister, aux acidités, et c'est ça aussi qui provoque l'émotion, en fait. C'est pas juste les choses, comment dirais-je, qui n'ont pas de longueur, qui n'ont pas d'évolution dans l'assiette. Il faut que ça soit vivant aussi, une assiette à déguster.
Comment vivez-vous cette période ?
Je la vis du mieux que je peux, dans le sens où elle nous est imposée, donc on l'a pas vraiment choisie, et donc pour quelqu'un comme moi qui a besoin de liberté, je compense ce manque de liberté par une liberté créative qui m'anime, et que en plus je dois construire puisque j'ouvre bientôt un nouveau restaurant, donc c'est parfait. J'ai besoin de ce temps de repos, pour moi il est assez, et j'en parlais avec Francis Curdjian, hein, qui est mon ami né parfumeur, et on se parle beaucoup pendant ce confinement. Il est propre à la création d'une certaine façon. Ce manque de liberté nous donne une liberté différente, et pour moi, j'essaie de le vivre le mieux possible. Voilà. Et ce qui me permet de bien le vivre, c'est ce côté créatif.
Anne-Sophie Pic, il y a beaucoup de femmes autour de vous aussi dans votre travail, notamment la patronne des sommeliers, qui est une sommelière, qui s'appelle Paz Levinson. Quels sont vos goûts en matière de vin ? Est-ce qu'il y a un vin qui est une icône ?
Alors, oui, bien sûr, je vais parler des vins de ma région parce que j'adore. Mais ce qui est intéressant avec le travail que j'ai initié avec Paz Levinson, c'est justement l'ouverture d'esprit sur le monde aussi. Mais si on reste dans la région, il y a un vin que j'adore parce que c'est celui de Christine Vernet. Donc Condrieux, bien sûr, son Condrieux, le Coteau de Vernon à Condrieux, et puis les Côtes Rôties aussi, les vins rouges qu'elle fait merveilleusement bien aussi. Donc travail de femme dans la vigne est intéressant, le travail d'élevage du vin par une femme est aussi intéressant et m'émeut beaucoup.
Il y a une différence que j'ai... entre l'élevage.
Quelle différence
d'un vin par une femme et d'un homme.
Je crois qu'avec Christine, c'est ce lien d'amitié qu'on entretient, parce qu'elle est fille d'eux aussi, donc fille de vigneron, je suis fille de cuisinier, de chef, donc on a un parcours un peu commun, autodidacte, c'est ce qui nous a aussi unis dans notre travail, dans notre amitié. Elle va chercher de la dentelle, comme je vais chercher aussi moi je dis toujours, tu vas chercher de la dentelle dans tes vins, de ces nuances assez extraordinaires qu'elle cherche, font écho à ma cuisine aussi, c'est cette subtilité qui se découvre voilà au fur et à mesure de la dégustation, et c'est pas linéaire, voilà, c'est cette précision diabolique qu'elle a aussi font que voilà ces vins se construisent très bien, enfin ça semble très bien avec ma cuisine, et aussi ce parcours de liberté qu'elle a, puisque c'est une autodidacte, donc des premières à avoir décidé d'être voilà dans la biodynamie, enfin ce travail qu'elle a fait autour de la vigne, c'est extraordinaire, que son père avait fait, bien sûr tous les vigniers du monde sont issus des vignes, enfin À l'origine, sont presque issus des vignes de Georges Vernet, son père. Donc, vous voyez à peu près la dimension de cette maison magique.
Et quel échange avez-vous avec elle quand vous goûtez un vin par rapport à un de vos plats? Comment ça se passe?
Ben, c'est vrai que, par exemple, on a fait le travail sur des accords. Bon, dans les côtes rôties, il y a des choses magnifique et c'est vrai qu'il y a ces notes aussi assez herbacées de menthe qui est assez sublime. Donc voilà, pour moi, quand je fais un chevreuil à la menthe au chiso ou à la menthe ikumbawa, je pense à un côte rôti pour l'accord, parce que je sais que dans son vin il y aura ces notes là et que donc ça va faire écho au plat. Donc c'est très important de déguster le plus souvent possible. Vous savez, je suis rentrée dans l'univers du vin assez tardivement et c'est Christine Vernet qui m'a aussi déculpabilisée, qui a été l'initiatrice de ça. Pour moi, quand j'ai commencé en cuisine, ce qui comptait c'était que le plat soit abouti et le vin ou la boisson était accessoire. Aujourd'hui, elle est devenue incontournable, voire dans le travail d'imprégnation absolue que je fais aujourd'hui dans mon travail de cuisinière, mais aussi d'accord avec Paz Levinson, la boisson a une dimension très très importante à table et dans l'émotion de la table. C'est très important d'avoir ces accords qui sont millimétrés, très précis et qui vont vraiment donner une dimension supérieure à la dégustation.
Ce sera ma dernière question. Est-il exact que quand vous allez en salle à la fin d'un service, vous lisez dans les yeux des clients?
Oui, j'entends aussi. C'est-à-dire que quand je vais dans une salle de mon enfance, je retiens ça. C'est-à-dire que je traversais la salle furtivement, bien sûr, et j'entendais les rumeurs, j'entendais le brouhaha heureux des clients. Et quand je vais dans une salle, je sais si ma salle est contente ou pas, est satisfaite ou pas. Et les yeux, bien sûr, parlent aussi, bien sûr. Les yeux parlent encore plus aujourd'hui. Mais quand ils s'embuent un petit peu, je suis moi-même émue. Et c'est ce que j'attends, en fait. C'est ce que je souhaite, je l'avoue. L'émotion.
Je vous remercie beaucoup. Merci Anne-Sophie Pic.
Merci, merci Michel.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.